coq chantait le jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet inquiétant, les effets sanitaires des bouleversements du climat. L'alerte a été donnée lorsque des cas de bilharziose ont été signalés en Europe via la Corse. On a donc un déplacement des maladies qui sont normalement tropicales et subtropicales vers d'autres régions de la planète. Scientifique appelle la bilharziose schistosomiase. Cette maladie touche principalement les régions tropicales et subtropicales, c'est-à-dire Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Est de l'Asie, où elle est particulièrement mortelle. Plus de 200 millions de personnes dans le monde en sont infectées, dont 85% en Afrique. C'est la deuxième maladie parasitaire au monde après le paludisme, ce qu'on appelle des maladies négligées. Nous sommes au Festival international de géographie de Saint-Dié des Vosges en France. Le professeur Philippe Briet a fait une communication très suivie sur le sujet du réchauffement climatique et l'extension des maladies infectieuses. Après cet exposé, nous l'avons interrogé.
Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Philippe Briet. Je suis médecin géographe, donc géographe pour une thèse au Brésil sur justement la bilharziose, et médecin épidémiologiste et infectiologue. Et par un concours de circonstances, je gagne ma vie comme professeur des universités en anglistique, étant agrégé d'anglais et spécialiste de la réforme dans le Royaume-Uni. Voilà.
Alors, dans le cadre de ce Festival international de géographie de Saint-Dié, vous avez fait une communication sur le climat et les maladies tropicales. L'exemple de la bilharziose.
Alors, l'idée était d'abord de dire que la question du réchauffement climatique ne se limitait pas à la question du déficit en eau, du déficit en culture, du déficit en eau pour le bétail, en problème de grandes tempêtes tropicales, de montée des eaux, mais que en dehors et au-delà de la simple question de l'alimentation, les maladies transmissibles étaient également au moins aussi importantes, et que malheureusement ces maladies transmissibles sont souvent méconnues. Et le deuxième point introductif étant qu'au sein des maladies transmissibles, lorsqu'on en parle, ce qui est rare, on pense toujours au paludisme. Le paludisme sature complètement à la fois la presse et la recherche. Et lorsqu'on sort du paludisme, on pense bien sûr à la tuberculose, grand fléau du 19e qui n'est pas aboli, et on oublie la troisième pathologie qui, en nombre, est presque aussi importante que ces deux premières, c'est-à-dire la bilharziose.
Alors, vous avez dit que le climat a un impact sur la santé à travers les maladies parasitaires et les maladies infectieuses. Quelle est la différence entre maladies parasitaires et maladies infectieuses ?
Alors, la maladie infectieuse, c'est vous êtes infecté par un agent pathogène qui est soit une bactérie, soit un virus, qui va se multiplier, et son souci, c'est de se multiplier en vous. Il n'a bien sûr pas intérêt à ce que vous décédiez parce que ce sera la fin de son histoire à lui, mais si ça arrive, ça arrive relativement fréquemment et c'est tant pis. Alors que le parasite, lui, par définition, est là pour parasiter. S'il peut rester totalement obscur, ne pas être ressenti par la personne qu'il va contaminer, c'est absolument parfait pour lui. Et dans le cadre des vers de la bilharzie qui peuvent survivre jusqu'à une trentaine d'années, ils vont de fait rester très discrets pendant extrêmement longtemps. C'est la différence fondamentale entre l'infection et la parasitose.
D'accord. Le nom scientifique, c'est donc schistosomiase. L'appellation courante Bilageuse est en fait un hommage rendu à Théodore Maximilien Bidas, un parasitologue allemand qui a travaillé sur cette parasitose grave en Égypte. C'est en 1851, durant la construction du canal de Suez, qu'il a découvert un ver parasite qui s'installe dans les vaisseaux sanguins des organes internes, où ils peuvent survivre de 20 à 30 ans. On peut dire que c'est une maladie de la pauvreté. Au début du cycle, on a cette larve dans une eau stagnante et qui infeste l'homme à travers la peau.
Alors la larve, qui s'appelle une furcocercaire, a une grande capacité natatoire. Elle a également une grande capacité de résistance. Elle peut survivre pendant 48 heures. Et cette larve va chercher la peau d'un être humain qui a les jambes immergées. On dit les jambes parce que c'est habituellement les jambes et pas les bras. Et si elle le trouve avant de mourir, avant de perdre ses capacités, elle va traverser activement son derme et elle va ensuite gagner le système veineux, par le système veineux gagner le cœur, puis le poumon, puis gagner la rate. Et ensuite, par la rate, gagner le foie, et à partir du foie, selon la variété de bilharziose, atteindre son organe définitif cible, c'est-à-dire soit la vessie, soit le rectum, soit le tube digestif un petit peu plus haut, soit le système veineux. Là, les larves deviennent adultes. Ce sont des vers qui font de 20 à 30 mm de long. Ils sont à sexe séparé, ils vont s'accoupler, ils vont rester ensemble toute leur vie qui va durer jusqu'à 30 ans. Et la femelle est capable de produire plusieurs dizaines à plusieurs milliers d'œufs par jour. Donc tous les jours, elle va se détacher du mâle avec lequel elle vit de façon fusionnelle pour aller essayer de les pondre. Et ces œufs soit vont rester dans la vessie, dans le rectum, ne pourront pas s'échapper, on pourrait dire à l'air libre, dans ce qu'on appelle la lumière. Ils vont créer une réaction inflammatoire et c'est cette réaction inflammatoire qui fait la gravité de la maladie. Sinon, si jamais les œufs réussissent à sortir, ils seront éliminés soit avec les urines, soit avec les selles. Ces œufs, s'ils tombent sur le sol normal, vont être desséchés très très vite et vont donc mourir. S'ils tombent dans de l'eau douce, ils vont immédiatement éclore et libérer une petite larve. Et cette petite larve va nager à la recherche d'un mollusque spécifique, qu'on appelle un bulin, bulinus pour faire savant en latin. La multiplication dans le bulin est assez compliquée, elle va durer à peu près un mois. Et au bout d'un mois, pour chaque larve, on peut dire pré-mollusque qui est rentrée, plusieurs milliers de larves post-mollusques vont être émises chaque jour. Et ce sont ces larves donc, qui nous ramènent au début de l'histoire, qui sont capables d'infecter la peau humaine.
Je vais essayer de résumer. Il y a cette larve dans l'eau. Elle me contamine, elle fait ses œufs. Ses œufs, moi, je les élimine soit par voie urinaire, soit par voie fécale. Si c'est dans l'eau, ça se remultiplie, ça recontamine l'homme. En fait, ça s'auto-entretient.
C'est un système qui s'auto-entretient. Il faut savoir donc que les vers adultes chez l'humain peuvent vivre jusqu'à plusieurs dizaines d'années.
Dans le corps humain ?
Corps humain, donc c'est une maladie chronique. Donc la contamination potentielle du milieu par l'humain, elle est tout à fait intense et prolongée. Et puisque les gens ne vont pas s'arrêter, même en saison sèche, d'aller abreuver le bétail, d'aller chercher de l'eau, d'aller laver le linge, d'aller déféquer à proximité du point d'eau, ou pisser à proximité du point d'eau, ou pour les enfants d'aller jouer dans les quelques petites mares ou les petits ruisseaux qui passent par là, sans compter l'obligation de passer par des guets, le cycle est très efficace à peu près tout le temps.
Bon, ça c'est la nature, mais il y a aussi que l'écologie joue, parce que vous avez dit qu'il faut un certain milieu écologique avec une certaine température.
Alors c'est là où le réchauffement climatique intervient. On aurait pu imaginer qu'un élément quelconque de ce cycle diminue avec la chaleur. En réalité, ils sont tous stimulés par la chaleur.
Il il y a des circonstances aggravantes dont il faut tenir compte. Cette maladie sévit dans les zones intertropicales qui correspondent généralement aux pays pauvres. Cette pauvreté des populations se traduit par l'absence ou la difficulté d'accès à une eau saine, un manque de latrines, un manque de système de traitement des eaux usées. Et même quand le médicament existe, les familles n'ont pas toujours les moyens pour bénéficier de soins. Or, les dérèglements du climat viennent accentuer la pauvreté dans les villages.
Alors, c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect humain de la chose. Il est évident que les gens sont pauvres. La pauvreté, d'abord, explique qu'il ne soit pas possible, par exemple, de construire des latrines pour tous, de mettre des lavoirs de qualité partout, d'expliquer aux pêcheurs que c'est une mauvaise idée de rester des heures pour pêcher au filet, c'est totalement inconcevable. Et la pauvreté a une deuxième conséquence péjorative, c'est que nous disposons d'un traitement depuis les années 70, un traitement qui est extrêmement efficace, qui est relativement bon marché, puisqu'on est à quelques euros le comprimé, en sachant qu'un comprimé réalise un déparasitage complet pendant une durée de une année.
C'est les petits comprimés bleus qu'on nous donnait à l'école, là ?
Alors, c'est le successeur du petit comprimé bleu. Je pense d'ailleurs qu'il est toujours bleu, mais maintenant, ce sont des comprimés uniques.
Ce n'est plus trois.
Ce n'est plus trois, on est passé à un. On considérait que pourquoi ne pas augmenter la dose ? C'est beaucoup plus facile également à manipuler, à compter, et ça évite que les enfants n'en prennent que deux ou quatre. De façon très, très basique.
Alors maintenant, nous allons arriver dans le cœur de cette affaire. Nous connaissons un peu mieux la bilharziose, les autres maladies annexes, ses compagnons. Il se trouve que c'est hommes et animaux, cette maladie, et le climat intervient dans cette affaire.
Alors, un certain nombre de bilharzioses, donc deux parmi les quatre, ont en plus ce qu'on appelle un réservoir animal. Par exemple, pour Schistosoma japonicum, qu'on va trouver en Chine, mais également dans certains territoires d'Indonésie, le buffle est un réservoir animal, c'est-à-dire que le buffle peut également se contaminer de la même façon que l'humain.
Ben, de toute façon, il aime l'eau, le buffle.
Il aime l'eau, et il va également déféquer et pisser dans l'eau sans contrainte. Et lorsqu'on a affaire à ce genre de problème, il est évident que l'éducation sanitaire des enfants humains et la construction massive de latrines n'a strictement aucun intérêt.
Alors maintenant, il y a ce dérangement du climat ou ce dérèglement du climat qui entraîne l'augmentation des températures.
Alors globalement, le climat a un effet totalement dramatique sur la bilharziose. D'une part, comme je l'ai déjà dit, il y a une augmentation biologique, plutôt écologique. Tout ce qui tourne autour du bulin est favorisé. Mais il y a également, bien sûr, une augmentation de la pression humaine sur l'eau, plus d'humains sur moins d'eau. Donc, le risque de contamination et du mollusque et de l'humain est considérablement augmenté. Par contre, où la chose est un petit peu plus compliquée et un petit peu plus intéressante d'un point de vue géographique, c'est que ce qui est aujourd'hui à la périphérie de la limite, de la bilharziose, c'est-à-dire par exemple des territoires subsahéliens qui sont soumis à un stress hydrique extrêmement fort, le réchauffement climatique va encore diminuer les ressources en eau jusqu'au moment où la transmission va s'arrêter.
Ah ben s'il n'y a plus d'eau.
Voilà. Donc on a effectivement quelques territoires, ceux qui sont à la limite, à la périphérie des zones d'extension de la bilharziose, qui vont probablement en profiter, entre guillemets, pour être déparasités. En revanche, et symétriquement, l'augmentation de la température va permettre à des zones, on va dire, semi-tempérées, ou disons à la marge de la zone intertropicale, qui jusque-là n'étaient pas concernées, de devenir effectivement contaminables. Donc ça se voit en Afrique de l'Ouest, ça se voit au sud de la grande forêt équatoriale, où cela commence à gagner effectivement les États tels que, par exemple, tels que l'Angola ou le Mozambique, pour rester dans l'ère lusophone. Et au nord, ça monte également sur le pourtour méditerranéen, où la bilharziose est beaucoup plus énergique dans le Maghreb qu'elle ne l'a été pendant très longtemps. Et les troisièmes territoires, où elle va potentiellement augmenter, ce sont les zones de montagne, l'altitude étant un facteur limitant la température. Donc on n'en avait pas, par exemple, dans l'Atlas, on n'en avait pas dans la région du Kilimandjaro. Et là, on voit très bien, avec le réchauffement climatique, les bulins et les malades qui vont monter de quelques centaines de mètres. Et on a également des facteurs protecteurs qui sont en train d'être progressivement mis à mal et qui, à terme, vont disparaître.
Mais ça ne concerne pas que l'Afrique, parce que j'ai noté, vous avez dit que l'augmentation de la température de l'eau favorise les parasites.
Alors ça fonctionne également dans toute la zone qui est contaminée, notamment la Chine. La Chine qui est infectée par Schistosoma japonicum, d'autant que la politique chinoise est également une politique d'irrigation dans le sud. Donc finalement c'est l'ensemble de la zone méridionale de la Chine du Sud qui est beaucoup plus sujette à infestation qu'elle ne l'était avant le début du réchauffement.
Professeur, moi j'ai une dernière question. Quand vous faites ce genre de conférences de communication, c'est public, vous faites des publications, tout le monde est au courant. Qu'est-ce que les décideurs publics vous disent? Parce que ce que vous dites, c'est tellement évident que...
Je crois que c'est une question de hiérarchie des priorités. C'est vrai que les grands accidents climatiques à court terme, c'est vrai que la montée des tempêtes tropicales, c'est vrai que la sécheresse en tant que cause de déficit en eau de boisson et en eau de culture et en eau pour la bétail est telle que je peux comprendre jusqu'à un certain point que cela passe au premier plan. Ceci étant dit, ce qui paraît un petit peu dommage, c'est que la maladie est connue depuis très longtemps, elle est parfaitement connue, son écologie est parfaitement connue, surtout nous avons un traitement. Donc de la même façon qu'on s'est donné les moyens d'éradiquer la polio avec des campagnes de vaccination, on devrait pouvoir se donner les moyens de contrôler infiniment mieux la bilharziose qu'on le fait aujourd'hui. On pourrait le faire à bas prix et dans le court terme. Pourquoi s'en priver?
C'est prioritaire parce que la bilharziose, ça touche quand même la santé de la reproduction.
Tout à fait, c'est un problème majeur. On meurt relativement peu de la bilharziose directement. Par contre, elle fait le lit d'autres maladies en affaiblissant le corps humain. Donc c'est un facteur favorisant pour tout le reste, y compris d'ailleurs pour le paludisme dans les nombreuses zones co-infestées par le paludisme. Et peut-être que sa conséquence la plus cruelle et la plus fréquente, c'est l'asthénie, c'est la fatigue, c'est la perte de capacité de travail. Perte de capacité de travail qui est toujours vécue dramatiquement par les populations pauvres de la zone intertropicale qui doivent effectivement travailler énormément, même à un jeune âge, pour simplement survivre.
Je vais essayer de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. J'ai dans mon corps un parasite qui peut vivre 30 ans, qui a des effets qui affaiblit mon métabolisme. Quelque chose de virulent comme le palu arrive, alors que je suis déjà affaibli. Et le palu, le problème du palu, c'est que ça arrive en saison agricole où j'ai besoin de force.
Tout à fait, c'est une pathologie chronique qui affaiblit et qui fait le lit de tout le reste, donc le palu bien sûr, mais également par exemple aussi une filariose ou la dengue si elle passe par là, ou le chikungunya ou toutes ces maladies, bon, sans parler des phénomènes de dénutrition ou autre. C'est un facteur adjuvant pour toutes les infestations et toutes les pathologies humaines.
Je vais arrêter là avant que vous ajoutiez autre chose qui fait peur. Merci.
Merci à vous et bonne suite du festival.
L'occasion du dernier Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges dans la région Grand Est en France, nous avons parlé du réchauffement climatique et de l'extension des maladies infectieuses avec le cas emblématique de la bilharziose. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, vous pouvez vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.